Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit des enjeux de la présidence et l'adhésion de la RDC dans la zone de libre-échange du COMESA. Comme deuxième sujet, nous parlerons des violences dans les différents stades congolais. Tels sont les thèmes des tribunes de la presse de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joël Kadendanga. Il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadendanga.
Bonsoir confrère, bonsoir auditeur.
Nous sommes également avec John Gomboy, il est directeur des informations à la télévision Antenne A, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Gomboy.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Également, nous sommes avec Donat Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu et secrétaire provincial de l'UNPC Sud-Kivu. Bonsoir Donat Moussema.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Les enjeux de la présidence et l'adhésion de la RDC dans la zone de libre-échange du COMESA, ainsi que les violences dans les différents stades congolais, figurent parmi les sujets qui ont retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La presse de cette semaine a fait état de la clôture des travaux de COMESA à Kinshasa. Les travaux du 17e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe se sont clôturés ce jeudi 27 février 2014 à la cité de l'Union africaine, informe la référence plus. Dans son discours de circonstance, le nouveau président en exercice du COMESA, Joseph Kabila, a indiqué que les échanges ont permis de faire le point sur le passé commun des pays membres et sur les étapes franchies dans la quête de l'intégration de leurs économies. Forum des As explique de son côté que le président Kabila et ses hôtes ont réfléchi sur les possibilités de construire des grandes voies de communication et de renforcer leurs interconnexions de manière à faciliter la circulation des personnes, des biens et des services. Le président Kabila a, dans son discours de clôture, plaidé en faveur de la transformation de nos matières premières au lieu de les exporter à l'état brut, ajoute pour sa part l'observateur. Il pense que l'exportation des matières premières à l'état brut défavorise leur pays. Dans le communiqué final du sommet publié dans les colonnes de l'avenir, on peut lire qu'une stratégie du COMESA a été adoptée au sommet de Kinshasa concernant les micro, petites et moyennes entreprises. Les États membres sont donc exhortés à soutenir les femmes entrepreneurs. Radio Capi.net est revenu sur la rencontre sportive qui a opposé l'association sportive Vita Club à Daring Club Motema Pembe dimanche dernier à Kinshasa. La Ligue nationale de football, le Dinafoot en sigle, a tranché sur l'issue du match de la 10e journée du championnat national de football qui a opposé le dimanche 23 février dernier l'ASV Club au DSMP au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Elle a infligé un forfait au DSMP dont les supporters ont occasionné l'arrêt de la rencontre après les buts de l'ASV Club à la 55e minute des jeux. Les supporters des Verts et Blancs ont jeté des projectiles sur l'aire des jeux pour contester l'action qui a amené les buts des Verts et Noirs. La Linafoot a également décidé que les DSMP allaient jouer son prochain match à domicile à huis clos et devaient s'acquitter d'une amende de 1 300 $ américains, dont 550 pour accumulation des cartons jaunes, 450 pour envahissement du terrain et 300 pour jet des projectiles. Après les incidents survenus le dimanche au stade de Tata Raphaël, le membre de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, ont visité mardi dernier cette enceinte sportive pour évaluer les dégâts. À l'issue de la visite, le troisième vice-président de la FECOFA, Roger Bondembe, a annoncé que les travaux de réhabilitation du stade allaient débuter ce mercredi pour permettre au club quinois d'y disputer leur match des Coupes d'Afrique. Roger Bondembe a notamment déploré que les supporters du DSMP aient déterré la tuyauterie du stade.
Merci beaucoup Guy Maté. Joël Kadendanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine est aussi marquée par la grève des agents de la SNCC Katanga. Ils réclament pour les uns le départ de l'actuel comité de gestion et le paiement des 5 mois sur les 78 mois d'arriéré des salaires. Et pour les autres, bien sûr, le paiement de leur décompte final. Un petit commentaire par rapport à cette information.
Bon, lorsque un pays est géré dans l'insouciance des agents et fonctionnaires de l'État, et particulièrement ceux de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qui a nourri à l'époque les deux Kassai, le Maniema et le Katanga, je crois qu'il y a un problème d'ingratitude vis-à-vis de ces personnes qui ont servi la nation congolaise. Et malheureusement, qu'il nous arrive de constater que, quels que soient les efforts de ces agents et cadres de la SNCC, quels que soient leurs cris d'alarme, le gouvernement, tout comme les autorités provinciales, gardent leur silence, ce qui démontre qu'on a atteint un niveau d'insouciance, de laisser aller. Et je ne sais pas ce que va apporter cette grève dans la mesure où tous les cris n'atteignent que les oreilles de ceux qui paraissent ne plus entendre.
Oui, je vous garde encore dans cette émission, Joël Kadindanga. John Gumboa, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision antenne émettant depuis Kinshasa. L'actualité cette semaine est aussi marquée par la vulgarisation de la proposition de loi de Steve Mbikai contre l'homosexualité en RDC. Et pour l'auteur de cette loi, l'homosexualité est un danger contre la pérennisation de l'espèce humaine ainsi que les valeurs africaines. Un petit commentaire, bien sûr.
Alors, moi, je le soutiens totalement. Je crois que la question ne se pose pas pour moi. C'est mon opinion. Les homosexuels n'ont pas leur place ici, dans notre pays. On ne voudra peut-être pas plaider les dérives que... On voudrait pas, plutôt, ce que je voulais dire, c'est on ne voudrait pas prendre pour nous aujourd'hui les dérives des sociétés occidentalisées, hein, aujourd'hui, qui sont arrivées à leur terme, qui autorisent des alliances contre nature, comme deux personnes du même sexe qui peuvent adopter un enfant. On comprend que c'est des sociétés qui sont arrivées à leur bout. Nous ne pouvons pas les imiter nullement. Donc moi, je soutiens totalement la loi Steve Mbikai. Je considère que dans ce pays, il y a suffisamment de femmes pour les hommes, et donc il n'est pas question que les hommes puissent se marier entre eux, et encore moins des femmes. Voilà.
Je vous garde aussi dans cette émission. Dona Moussema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu, et vous êtes aussi secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. Quelle est l'actualité à la une aujourd'hui au Sud Kivu?
Merci beaucoup, Samuel, pour la question. La grande actualité ici à Bukavu, ce sont les retombées des échauffourées survenues à Bukavu le 20 février dernier, avec, comme vous vous en doutez, l'arrivée de Vital Kamerhe. Pour le moment, la polémique est vive entre l'UNC, son parti politique, et les partis de la majorité présidentielle. On est en train d'assister tout simplement à des accusations mutuelles jusqu'aujourd'hui. D'une part, pour la majorité présidentielle, Kamerhe n'a pas obtempéré au dispositif sécuritaire arrêté par les autorités en place, et donc il faut qu'il répare les préjudices causés. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, l'UNC, les partis politiques de l'opposition, accusent les autorités provinciales de tentative d'assassinat de Vital Kamerhe pour, estime-t-il, avoir autorisé ainsi la police à jeter des gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles sur la foule ainsi que les militants de son parti. C'est pourquoi d'ailleurs le même parti avec Vital Kamerhe viennent dans une lettre ouverte au chef de l'État d'initier une pétition encore en gestation parce qu'elle n'est pas encore totalement signée. Mais la pétition exige la démission du gouverneur de province, Marcelin Tshishambo. Et hier même ici à Bukavu, lors de la clôture des travaux du forum, des partis politiques de l'opposition, Vital Kamerhe et la coalition des partis politiques de l'opposition ont exigé également la démission du président de la CENI, Abbé Apollinaire Malumalu, et toute son équipe. Donc pour terminer, l'actualité malheureusement c'est encore une autre pétition. C'est une autre pétition avec 6080 signatures de la population de Shabunda. Shabunda, c'est un territoire qui désavoue son élu Gilbert Ngongo-Lusana, vice-président actuel de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, à qui, selon les contenus de la pétition, il est reproché le détournement des fonds, barbarie et bagarre récurrente avec ses collègues, la vente des biens destinés à la base, et j'en passe, car il s'agit au fait d'une ribambelle de griefs contre le député provincial PPRD et territoire de Shabunda, mais qui est à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Alors, de tout ça, les organisations de la société civile interfèrent, s'interposent en sapeurs-pompiers, en faisant un peu des recommandations aux uns et aux autres, à la police, à la majorité, à l'opposition, au gouvernement, mais aussi à la communauté internationale, voire à la population, pour essayer d'amener les uns et les autres à la paix. Mais pour l'instant, c'est un peu ça la situation au niveau de la province du Sud-Kivu.
Merci Donna Moussema, je vous garde encore dans cette émission. Nous abordons directement notre premier thème de ce soir. La promotion de la petite et moyenne entreprise est un bon moyen pour accroître l'offre d'emploi en faveur de la population dans la région du Comessa. C'est ce qu'a déclaré hier jeudi à Kinshasa le président de la République démocratique du Congo et président en exercice du Comessa dans son discours marquant la fin du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique australe et orientale. On écoute Joseph Kabila dans ses propos recueillis par Askien Zigbia Tayoro.
Le sommet de Kinshasa a eu pour thème central « Consolidons le commerce intra-Comessa en développant les micro, petites et moyennes entreprises ». Nos échanges ont mis en évidence le rôle important que les PME et PMI doivent jouer dans le processus d'intégration et d'enrichissement dans la région. Qu'il s'agisse de structures de production, de distribution ou de services, par leur taille et leur flexibilité, les entreprises de ce type ont l'avantage d'être plus proches des populations. Elles s'intègrent mieux au sein de communautés, s'adaptent facilement à nos conditions socioculturelles et sont susceptibles de se diffuser plus rapidement dans nos pays, qui doivent accroître significativement l'offre d'emploi.
Parmi les recommandations, les participants ont convenu de la mise en œuvre de l'union douanière et l'industrialisation dans l'espace Comessa. Objectif visé, faciliter les échanges commerciaux en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans leur communiqué final, les chefs d'État et de gouvernement ont pris des décisions en rapport avec l'économie, la démocratie, la sécurité et la paix. Le compte rendu avec Mimi Ingo.
Dans le communiqué final lu par le ministre congolais des Affaires étrangères, les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu le rôle important des petites et moyennes entreprises dans le développement des États. Pour cela, ils ont appelé au soutien des PME par l'établissement d'un fonds d'autonomisation en vue d'accès facile au financement. Tout en reconnaissant l'importance d'une industrialisation fondée sur les produits de base, les chefs d'État ont instruit le secrétariat d'élaborer un projet de politique commune dans ce secteur. Concernant la zone de libre-échange, ils ont exhorté à la mise en œuvre des décisions relatives à l'union douanière. À propos de la démocratie et de la gouvernance, ils ont réitéré leur importance au sein du Comessa.
Pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et exhorté les États membres du Comessa à poursuivre le renforcement des processus, des structures et des institutions démocratiques afin de consolider la démocratie et la bonne gouvernance dans la région.
Quant aux infrastructures, le commissaire a appelé ses membres à stimuler la mobilisation des ressources destinées à la préparation des projets.
Joël Kandendanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Quelle lecture vous faites de ces travaux du commissaire en RDC?
Bon, la lecture que je fais, c'est que désormais, comme tout le monde a eu à le chanter, la République démocratique du Congo devient fréquentable et que nous pouvons facilement faire la visibilité de notre pays sur la scène internationale. Vous en doutez, il y a plusieurs années que la RDC avait été isolée. Sur le plan international, on n'entendait plus sa voix, on ne voyait plus ses chefs. Mais au moins, il faut féliciter l'action du chef de l'État, l'action de toutes les autorités gouvernementales qui ont fait en sorte que nous puissions rentrer sur la scène internationale. Qu'à cela ne tienne. Mais il y a lieu de se poser la question de savoir quel est l'apport de l'engagement de la RDC dans toutes les organisations internationales et régionales. C'est là qu'on se pose la question, surtout sur la population. Il ne faudrait pas que l'engagement dans les institutions internationales, dans les organisations internationales et régionales, ne puisse profiter qu'au régime, ne puisse profiter qu'aux autorités pour continuer davantage à saigner à blanc les trésors publics. Il faudrait que cela ait de l'incidence positive sur les vécus quotidiens de la population. On a parlé ici de la promotion de la petite et moyenne entreprise, de la petite et moyenne industrie, mais vous allez constater chez nous que tous les efforts sont fournis par les gouvernants pour décourager toute initiative dans ce sens ici, surtout si cela vient d'un autochtone. Et vous verrez que la plupart des petites et moyennes entreprises sont tenues par les expatriés. Et lorsque un Congolais, un autochtone, prend l'initiative d'installer ne fût-ce qu'une petite boutique, d'ouvrir ne fût-ce qu'un petit commerce de Kananga Chikapa, vous allez voir combien de taxes, combien de redevances, combien, n'est-ce pas, d'impôts vont alourdir sur sa tête.
Mais juste une parenthèse, mais là, il y a quand même une loi sur le petit commerce qui est réservée aux nationaux et non aux expatriés en RDC.
C'est du bruit inutile. Vous avez déjà vu où cela s'est concrétisé. Allez dans tous les magasins. Je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas... Mais allez au centre commercial ici, vous allez constater que nos frères indo-pakistanais, ce sont eux-mêmes qui vendent en détail nos frères ouest-africains. Ce sont eux qui vous vendent les kamundele. Ce sont eux qui vous vendent même les beignets, même les arachides. Donc vous allez vous rendre compte... Et pour ces frères-là, lorsque un agent de l'État va aller vers lui, vous allez constater qu'il va appeler un colonel, un général, un ceci et cela, une haute autorité mieux placée, de telle sorte que on puisse les laisser faire. Mais s'il s'agit d'un autochtone, vous allez voir combien il sera harcelé jusqu'à ce qu'il va fermer. Vous allez même constater que la plupart des alimentations supermarchés tenues par les Congolais, il y a un supermarché là au niveau de Kitambo qui est en train de fermer parce que tenu par un Congolais, chez nous, il n'y a pas cette promotion ici, cet encouragement. Peut-être on le dit comme de pieux vœux. Et je souhaiterais que le président en exercice de Comesa, nous avons 2 ans devant nous, que nous puissions montrer le bel exemple en commençant d'abord par soutenir les initiatives congolaises. Mais ça va connaître un obstacle parce que la plupart des banques que nous avons ne sont tenues aussi que par les expats qui nous donnent le crédit à ce projet de petites et moyennes entreprises qu'à leur faire. Et les Congolais n'ont pas le moyen. Il aurait fallu que le gouvernement congolais mette les moyens pour soutenir ceux qui peuvent se lancer dans ce domaine.
Je vous garde encore dans cette émission, Joël Kalindanga. John Gombo, vous avez suivi Joël Kalindanga dans ses opinions. Mais pour vous, comment est-ce que vous analysez ces travaux du COMESA et l'adhésion de la RDC à ce marché commun?
Voilà, mais avant de donner mon point de vue, je voudrais revenir sur le propos de Joël en disant que je crois que le ministre de l'économie aurait dû démissionné depuis très longtemps, depuis l'époque où il avait annoncé solennellement.
Pourquoi?
Il avait annoncé solennellement que le petit commerce ne sera tenu que par des Congolais. Et chaque jour, nous voyons dans nos rues, dans les rues, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, nous voyons tous ces étrangers qui vendent des cacahuètes. Et on se demande bien qu'est-ce que les Congolais vont vendre après. Mais cela dit, pour revenir donc au sommet du COMESA, moi je vois ça plutôt sous un regard de défi. Un regard de défi dans le sens où le COMESA, c'est un vaste marché, 400 millions de consommateurs. Et du coup, il y a une possibilité de produire dans la région, pour la région. Et ça, c'est ce qui manque énormément à nos économies qui sont trop extraverti, nous dépendons trop de l'extérieur, on commande tout de X, Y, Z à l'étranger et nous ne produisons rien du tout. Et le président Kabila l'a dit, les matières premières sont pratiquement envoyées brutes. Et j'étais dans la salle à la cité de l'Union africaine, le président Museveni a dit quelque chose de très, très important. Il a dit que pour chaque kilo des cafés ougandais vendus à Londres, ça fait $15 de plus pour les Anglais et ça leur donne en plus du travail. Voilà. Donc, il faut qu'on repense nos économies qui sont trop extraverties. Nous dépendons de l'extérieur et nous ne produisons pas grand-chose. Voilà, du coup, nous avons un marché de 400 millions et je crois qu'il y a énormément de choses à échanger entre nous si on commençait d'abord à développer la zone économique. Alors, l'autre question maintenant, c'est qu'est-ce que nous allons produire? C'est pourquoi j'ai parlé des défis. Nous avions vu à l'ouverture du sommet qu'il n'y avait aucun Congolais qui était primé dans le cadre de l'innovation, de ceux qui ont pu fabriquer quelque chose, des inventions, je veux dire. Aucun Congolais. Et donc, j'ai parlé avec Martin Ekanda, PDG de l'ISIPA, il dit « L'information ne circule pas ». L'information ne circule pas déjà. Moi, je pourrais même dire plus. C'est pas seulement que l'information ne circule pas, mais l'État n'accompagne pas les privés qui doivent s'engager dans le PME. Mais déclarer une petite et moyenne entreprise aujourd'hui dans le fonctionnement actuel de l'économie congolaise, c'est se mettre la corde au cou. Vaut mieux, la plupart, vous le savez, notre économie est dans l'informel. Et les PME ne veulent même plus sortir. Il faut donc que l'État congolais repense les cadres d'encadrement des PME pour leur permettre de pouvoir se développer et d'arrêter de fonctionner avec une fiscalité de l'époque de la cueillette où vous n'attendez pas que le produit puisse grandir, mûrir. Vous voulez couper tout quand ça éclot. Donc je crois qu'il faut aussi revoir la fiscalité parce que les PME pleurent sous la fiscalité, les PME pleurent sous les taxes énormes et s'il faut que le Congo puisse vendre dans l'espace comme ça, il faut donc qu'on puisse revoir cette façon de fonctionner de l'économie congolaise.
Oui, John Gombon, je reviens à vous tout à l'heure. Dona Moussema, dans son adresse lors de la cérémonie de clôture, Joseph Kabila a affirmé que la promotion de la petite et moyenne entreprise est un bon moyen pour accroître l'offre d'emploi en faveur de la population dans la région de Comessa. Vous qui êtes à l'est de la RDC, comment est-ce que vous analysez cette vision du chef de l'État concernant notre pays qui adhère à ce marché commun?
Dans ce pays, en fait, nous sommes habitués à des déclarations, à des discours, à des visions. Je pense que, je venais de suivre le discours du chef de l'État, nous avons tout suivi. Il n'y a pas eu quelque chose de négatif dans ce discours là-bas, mais je pense qu'au stade actuel, nous avons plus besoin du concret, le réalisme, le pragmatique, parce que quand vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au 17e sommet, est-ce qu'on a d'abord fait le bilan depuis les autres sommets pour voir comment la vie du peuple congolais a changé? Voilà, c'est autant de questions qu'il faut plutôt se poser. Donc c'est un discours, il est bon, il y a des recommandations, d'accord, on est habitué à des sommets, à des discours, on est habitué à des ateliers, mais il n'y a pas de réalisation. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement puisse bien définir la politique dans la promotion des PME, donc les petites et moyennes entreprises. Quand nous suivons, par exemple, que non, voilà, on va transformer les matières premières pour que ça puisse aider à la population congolaise. Comment on va le faire? On n'a pas développé une vision claire pour qu'on puisse arriver à cela. Et à un niveau, personnellement, je pense que ça me paraît abstrait et pas vraiment réaliste. Et si aujourd'hui on voit que, la population congolaise n'a pas encore de l'eau, l'électricité, les taux de chômage aigus, les parents paient encore la scolarisation des enfants, le niveau de vie très bas. Alors, c'est des discours auxquels on est habitué, mais qui ne nous aident pas du tout à avancer. Donc, voilà un peu ce que je peux penser. Vous avez parlé, par exemple, de la promotion des petites et moyennes entreprises, les petites et les initiatives privées. Je vous dis qu'ici, à Bukavu, par exemple, Sud Kivu, toutes les radios communautaires venaient de décider de ne plus payer les taxes il y a de cela 3 semaines, parce que il y avait surtaxation, il y avait des taxes qui revenaient, tantôt il y a des doublons dans la taxation, et tout ça c'était un ras-le-bol pour les radios communautaires. On a décidé de commettre l'accord de ne plus jamais payer jusqu'à nouvel ordre de taxes, mais on voudrait voir clair. Donc, c'est des discours, nous aimons les discours, c'est bien, ça nous donne la visibilité au niveau international, au niveau africain, c'est bien pour les pays parce que nous sommes rentrés dans les concerts des nations. C'est nous qui présidons maintenant au COMESA, c'est bien, mais nous avons plus besoin du concret. Le peuple congolais, le moyen, il a besoin de la réalité sur le terrain.
Joël Kadendanga, Dona Moussa m'a dit que le peuple congolais a besoin du concret. Et certains observateurs politiques pensent même que c'est une bonne chose pour la RDC d'appartenir au COMESA, à ce marché commun. Mais la RDC ne doit pas s'attendre à quelque chose de bon s'il ne parvient pas à s'imposer au sein du COMESA. Comment est-ce que vous analysez cette pensée?
Donc, la première chose, mon cher frère, dans les conseils des nations, il y a, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous avons à donner dans ce marché commun? Aujourd'hui, on dit non, il y a suppression de barrières douanières. La suppression des barrières douanières, il faut retenir que la RDC dépend à 70% des recettes issues des recettes de droits de douane. Et aujourd'hui, si nous y entrons, qu'est-ce que nous allons gagner? Ça, c'est de un. Et de deux, qu'est-ce que nous allons offrir? Nous avons les maïs, nous avons les produits vivriers. que nous devrions vendre à Kigali, que nous devrions vendre à Kampala, que nous devrions vendre à Lusaka, qui pourrit Saka Bongo Malembankulu Manono. La dernière fois j'étais dans le Nord Katanga, depuis qu'on a résolu de tuer la Société Nationale de Chemin de Fer. Vous allez voir que les maïs vous pourrissent. Pendant que vous arrivez à Lubumbashi, il y a la pénurie en produits vivriers.
Et on est obligé d'aller vers la Zambie.
On est obligé d'aller vers la Zambie pour prendre. Il faudrait pas que nous entrions dans ce marché commun pour tout simplement recevoir ceux qui viennent des autres sans que nous puissions avoir quoi offrir. Et on a tout tué. On a parlé des infrastructures. Vous allez constater, allez tout simplement au Rwanda ici. Les routes sont reliées les unes aux autres. Et les tronçons locaux est privilégié. Mais chez nous, vous allez voir que il n'y a que les compagnies aériennes qui viennent de l'extérieur, qui font même les réseaux nationaux, ce qui est contraire aux lois du pays. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, qu'en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures routières, les gens, pour des raisons égoïstes, veulent, par exemple, une route qui la nationale numéro 1, par exemple, qui part de Tchikapa jusqu'à Kamotcha, jusqu'à Kananga. On veut détourner ça en faveur d'une route de dessert agricole qui passe par Tshisuku, tout simplement pour privilégier les intérêts égoïstes, les intérêts mesquins. Je crois qu'il est temps que nous puissions réfléchir en intégrant toutes ces organisations internationales, toutes ces organisations régionales, ce que nous apportons à notre population, ce que nous devrions apporter à notre population, se privilégier, comme nous l'avons dit, la petite et moyenne entreprise, par accorder des crédits à certains Congolais qui sont déjà dans cela, et essayer un peu d'équilibrer les taxes, d'essayer un peu d'assainir le climat des affaires, d'abord par rapport aux Congolais, non pas seulement par rapport aux organisations, aux entreprises minières. Je voudrais bien qu'on entre dans ces organisations. Il ne faudrait pas que ça soit comme des syndicats pour le maintien des chefs d'État dans le pouvoir, mais il faudrait que cela ait une implication directe. Je voudrais terminer pour dire, vous allez constater, vous l'avez dit, qu'il faudrait que la RDC s'impose. Voyez l'image du Congolais dans cette zone. Quand vous êtes à Lusaka, tout Congolais, on l'appelle Mouiji, on l'appelle Kassai. Kassai, ça veut dire on le minimise, on le réduit, on n'est pas respecté. Je crois que notre gouvernement devrait d'abord se battre pour l'identité congolaise. Et en Angola, ici, combien de fois on ravit les documents de Congolais pour les laisser sans documents et les expulser, les violer, et notre gouvernement ne fait aucun effort pour le respect de l'image du Congolais à travers les zones dans lesquelles nous sommes membres.
Merci Joël Kadé. John Gomboa, Joël Kadé avait déjà commencé à aborder cet aspect. Nous savons bien que le budget de notre pays dépend principalement des recettes douanières. Est-ce qu'en adhérant au COMESA, vous pensez que le gouvernement congolais a pris des dispositions pour combler le déficit qui sera créé par les importations, exportations des marchandises originaires des zones de COMESA, car celles-ci sont en fait exemptées des droits des douanes et des taxes à l'importation et à l'exportation?
Oui, moi j'ai parlé tout à l'heure des défis. C'est là qu'on prend aussi question de l'union douanière. Il faudrait, évidemment, c'est un processus. On ne va pas aller enlever toutes les barrières sur tous les produits. Donc, on va y aller progressivement. Mais aussi, dans le même temps, il faudrait que l'État congolais puisse soutenir la production locale, la production en interne. Nous avons parlé des petites et moyennes entreprises qui sont, je crois que c'est encore le président Kabila qui l'avait dit, et ça c'est une vérité, ce sont les entreprises qui sont les plus proches de la population, parce que les PME, les PMI, c'est pratiquement, à la différence des grandes entreprises, c'est pratiquement l'effet de la population à la base de la classe moyenne. Et donc, en même temps, qu'on va aller vers l'union douanière, en même temps, il faudrait que le gouvernement, enfin l'État congolais, puisse soutenir la production locale. Cela dit, je voudrais aussi revenir sur un autre aspect qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué. Il s'agit de la convoitise que suscite les Congos. Je crois que si nous sommes aujourd'hui en guerre, c'est essentiellement à cause de ce que nous avons. Mais les COMESA offrent au Congo et à ses voisins la possibilité possibilité de remettre les cartes sur table et de pouvoir discuter. Parce que dans le COMESA, vous savez, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons les Burundi, qui sont les potentiels agresseurs de la République démocratique du Congo, évidemment, qui sont aussi téléguidés par d'autres puissances économiques, financières internationales. Mais les exécutants, c'est eux qui sont aux premières loges. Donc, le COMESA pourra aussi permettre de régler ces problèmes, c'est-à-dire de dire, bon, écoutez, vous voulez quoi dans mon pays, voilà ce que les conditions selon lesquelles moi je donne ceci ou cela, et ça peut peut-être permettre de consolider cette paix fragile qu'on est en train de vivre actuellement dans le pays.
Dona Moussema, nous terminons ce premier thème avec vous. Quels avantages la RDC pourrait tirer en adhérant à ce marché commun du COMESA?
Bon, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire sur le plan politique d'abord, il s'agit d'une forte visibilité du pays, et puis c'est le retour aussi dans le concert des nations. Comme le disait, je pense, Joël, il s'agit aussi d'un bon rendez-vous parce que c'est là où se retrouvent tous ces pays qui sont dans le COMESA. Mais dans un rendez-vous, il faut les donner et les recevoir. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que la RDC apporte dans le COMESA? Qu'est-ce que nous gagnons, nous, comme population, dans donc les retours-là? Alors, il faudrait, à ce sujet, donc, que le gouvernement congolais définisse une bonne politique, une politique harmonieuse qui puisse nous permettre de nous retrouver à travers le COMESA, nous comme peuple congolais. Et aussi, ce qu'on va gagner, je ne sais pas, je suis un peu sceptique parce que, comme je le disais au début, les discours, les sommets, les congrès, on en connaît dans le pays, et il faudrait plus qu'au niveau interne, on puisse travailler, qu'on définisse une bonne politique qui puisse soutenir la production locale et promouvoir les initiatives privées et avoir une vision claire pour un développement économique. Je pense que c'est des choses encore auxquelles il faut travailler.
Merci Dona Moussema. Nous passons directement à notre deuxième thème de ce soir. Violence dans les stades congolais, c'est un phénomène de plus en plus visible à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Le dernier cas est celui intervenu dimanche 23 février dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa dans le match opposant l'ASV Club au Daring Club Motema Pembe. Ce match n'est pas allé à son terme. Il a été interrompu après le but de V Club à la 55e minute de jeu, ce qui a occasionné des échauffourées dans les tribunes des supporters du DSMP. Le film de ce match avec vous, Jeff Ngoy.
L'arrêt de ce match est intervenu après le but de V-Club à la 55e minute de jeu qui a occasionné des échauffourées dans les tribunes des supporters du DSMP. Ce dernier contestait le coup franc sifflé par l'arbitre après une faute de main de Lofo Bongeli. Le coup franc a été transformé par Lema Mabidi d'un bel intérieur du pied droit. Après le but, des supporters du DSMP ont commencé à jeter des projectiles sur l'aire de jeu. Certains ont tenté d'envahir la zone neutre alors que d'autres se sont mis à arracher les sièges et les grilles séparant les tribunes du stade Tata Raphaël, récemment rénové pour accueillir les matchs des clubs quinois engagés en compétition interclub de la Confédération africaine de football. Pour tenter de ramener le calme, les policiers ont lancé des gaz lacrymogènes dans les tribunes qui ont été désertées peu à peu. Quelques minutes après, les supporters de V-Club sont descendus sur l'aire de jeu pour manifester leur joie. C'est dans cette confusion que le match a été arrêté sur ce score d'un but à zéro en faveur de l'AS V-Club. Cette confrontation était la première entre les deux clubs dans le stade Tata Raphaël depuis 20 ans.
En rapport avec ces incidents, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a tranché à l'issue de ce match de la 10e journée du championnat national de football qui a opposé l'AS V-Club au DSMP au stade Tata Raphaël. Elle a infligé un forfait au DSMP dont les supporters ont occasionné l'arrêt de la rencontre après le but de l'AS V-Club à la 55e minute de jeu. On écoute Simon Kayoyo, président de la LINAFOOT, au micro de Nanambala.
Le match est bien réglementé, c'est-à-dire que l'équipe perd le match par forfait, c'est-à-dire 3-0. L'équipe est sommée de réparer tous les dégâts causés au stade Tata Raphaël. Et comme il s'agit d'un cas de récidive, le parc de Saint-Pé a déjà été sanctionné lors de la phase aller, pratiquement pour les mêmes faits. Les prochains matchs à domicile de Saint-Pé se jouent à huis clos. À part ça, il y a bien sûr l'envahissement de la zone F, le jet de projectiles, ça c'est, il y a des pénalités que l'équipe doit payer. J'ai reçu aussi beaucoup de fils où président disait bon, il fallait peut-être que qu'on change encore des 3 points du capital des fans déjà gagnés par des CMP. Là, on se réfère à l'article 44 du CEDEF, mais malheureusement, cet article parle de bagarres, des bagarres généralisées. Bon, les cas qu'on a vécu, il n'y a pas ne concerne pas les bagarres généralisées, mais c'était l'arrêt du match suite aux incidents créés par les supporters de CMP.
Joël Kadindanga, c'est quand même choquant et surprenant ces violences à répétition dans les différents stades congolais, à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Un petit commentaire par rapport à cela.
Je ne voudrais pas qu'on puisse dramatiser. Les violences dans les stades, ce n'est pas une recette congolaise. On en a eu en Égypte, en Côte d'Ivoire et voire dans les pays occidentaux. Ce qui nous manque chez nous, c'est le sens d'anticipation dans le chef de nos dirigeants, particulièrement les dirigeants sportifs. Je crois avoir partagé, avec le premier vice-président de la Ninafoot, M. Jean Kamwena, pour lui dire que, écoutez, il fallait que ce match soit délocalisé, les matchs comme celui de Lupopolu Mazembe, le match de DCMP V-Club, que ce match-là qu'on puisse anticiper même à Kananga, Saint-Luc, Chinkunku ou Mbujimayi, Sangabalende, Mbongo Sport, ce sont des matchs qui, il faudrait que l'on anticipe en les délocalisant même, qu'ils aient joué à Mbujimayi, qu'ils aient joué à Kananga. Parce que c'est la Linafoot, il n'y a pas d'exigence. Autant ils voyagent pour jouer à Kisangani, je crois que des matchs où on sent qu'il y a pression, on sent qu'il y a tension, on peut anticiper cela. Et on peut éviter dans cette anticipation les violences. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais c'était prévisible. Il a fallu voir et la tension créée par les supporters de The Club, la manière dont ils ont chanté le triomphalisme, puisque c'est leur président, le général Amissi Tangofort, qui a réhabilité le stade. Vous comprenez? Et ça constituait une raison de chantage, de triomphalisme, de victoire chantée avant la guerre, et ça ne pouvait qu'exciter les autres à se préparer. Et vous, il y avait des supporters de DCMP qui annonçaient déjà qu'en allant au stade, ils étaient sûrs qu'ils allaient perdre le match et qu'ils allaient créer ces désordres-là. Je crois qu'il y a lieu dans notre pays qu'on puisse anticiper. Les violences au stade, ce n'est pas une recette seulement congolaise. Il y a eu des morts l'année passée en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts et les stades avaient été fermés en Égypte. Et les DCMP et les clubs avaient été battus, je crois, au Nigeria il y a 2 ou 3 ans. Donc il ne faudrait pas qu'on dramatise. Toutefois, il faudrait qu'on anticipe pour éviter ces violences au stade congolais.
John Gomboa, nous avons suivi ce reportage de Jeff Ngoy sur ces violences causées par les supporters dans le stade de Kinshasa Tata Raphaël. Comment faire alors pour encadrer ces derniers afin de les pousser à accepter les résultats des différents matchs?
Bon, mais ça, j'allais dire que c'est une gageure. Hein. Les mondes du sport, c'est le monde de la passion. Donc, on ne peut pas en vouloir aux supporters, c'est de pouvoir exprimer leur mécontentement. Hein. Mais est-ce que moi, je voulais relever par rapport à ce match que j'ai suivi à la télévision? C'est, disons, l'incapacité des forces de l'ordre de pouvoir maîtriser la foule avec des moyens, des armes non létales. Parce que la police a été aussi pour beaucoup dans la débandade généralisée qui a amené les supporters là, à pouvoir casser les tribunes, ainsi de suite. La police a lancé des gaz lacrymogènes carrément dans la population, dans la foule. Et d'ailleurs, je crois que la RTNC qui retransmettait le match, ils ont été aussi, les commentateurs ont été victimes, ils ont dû arrêter. Et donc, Joël le disait tout à l'heure, c'était prévisible qu'il pouvait y avoir tension, mais alors il revenait aux forces de l'ordre de pouvoir prendre les dispositifs nécessaires pour pouvoir sécuriser. Eux, ils étaient au milieu du terrain, sur l'heure des jeux, au lieu d'être avec les supporters à côté d'eux. Ils pouvaient mieux les maîtriser. Je me demande bien à quoi servent toutes les tactiques qu'on leur apprend ici pour pouvoir maîtriser la foule. Et moi, je crains que le jour où il y aura une manifestation peut-être autre que sportive, ça ne puisse dégénérer et que les forces de l'ordre ne sachent pas en réalité contrôler et gérer la foule sans recourir aux armes létales.
Dona Moussema, je rappelle que vous êtes à Bukavu, Sud Kivu. En parlant des violences dans les stades, il faut aussi dire que les joueurs ont aussi une part de responsabilité. Et que doivent-ils alors faire pour lutter contre ces violences dans les stades?
Oui, je pense que la responsabilité est partagée hein, à plusieurs niveaux. Et la question de la violence, comme le disait Joël au début, je suis tout à fait d'accord avec lui. La question de la violence est une question d'actualité d'abord. C'est aussi une question moderne et aussi vieille comme le monde. Et c'est une réalité à laquelle on est impuissant malheureusement. Et on est désolé de constater chaque fois que ce soit au Congo, que ce soit même dans des grandes rencontres, on suit les matchs qui se passent par exemple en Europe, les grands clubs, on voit que la violence revient toujours. Moi, je pense que on peut quand même essayer d'y travailler en essayant de faire un travail d'éducation civique, chez les fanatiques par exemple, chez les supporters, essayer un peu de mener des actions coordonnées et planifier aussi d'une façon continue, en essayant un peu de faire un travail de sensibilisation, peut-être aussi sur le plan de la logistique, avoir des bons stades, avoir une police formée aussi, hein, donc je ne sais pas, essayer un peu de structurer les comités des supporters, bien payer les arbitres, autant des raisons justifient un peu la violence dans les stades, mais c'est une réalité très très délicate et qui nous échappe. Mais on continuera, je pense, à vivre puissant devant cette situation. Mais on peut y travailler, je pense.
Joël Kanindanga, il existe une commission anti-violence dans les stades congolais, dirigée, ce comité bien sûr dirigé par Alaki Tengue. Que faire alors pour rendre cette commission plus opérationnelle pour que cessent ces violences dans les stades congolais?
Vous ne pouvez pas demander aux gens ce que vous ne leur avez pas interdit. J'ai aimé l'idée lancée par le chef de l'État à travers un nouveau ministère, celui d'initiation à la nouvelle citoyenneté, pour lequel d'ailleurs M. Gaston Pierre-Mamikobi a publié un ouvrage, l'enseignement de l'éducation et de la citoyenneté. Je crois qu'il y a lieu qu'avant que cette commission de la lutte contre les violences dans les stades, il faudrait qu'on puisse engager toute la population congolaise à la nouvelle citoyenneté. Il ne faudrait pas qu'il y ait autant de ministères sans que l'on sache réellement leur apport sur le terrain. Il est donc temps que l'on puisse inculquer la mentalité de non-violence aux supporters. Ça peut se passer parce que les supporters, c'est un monde le mieux organisé possible. Il y a des supporters de chaque commune, de chaque district, de chaque province. On peut, à tous ces niveaux-là, les encadrer, les éduquer, leur inculquer une nouvelle citoyenneté de telle sorte qu'ils puissent bien se comporter au stade. Hein, c'est de cette façon-là qu'on peut anticiper certaines violences. Les laisser dans la passion, même si c'était vous, même si c'était moi, en regardant le match, si vous êtes supporter et passionné, vous pouvez vous retrouver, vous avez déjà posé des actes qui ne seront conduits que par l'esprit de foule. Donc, bref, il faudrait que notre ministre, qui d'ailleurs gère les médias et les relations avec le Parlement, puisse engager cette campagne d'initiation à la nouvelle citoyenneté à tous les niveaux, qu'au niveau de la LINAFOOT, qu'au niveau de la FECOFA, que tous les responsables des clubs soient engagés dans cette nouvelle citoyenneté au lieu qu'on continue toujours à condamner.
Je considère cela comme étant aussi votre conclusion, puisque nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. John Gombo, je vais vous demander des réponses vraiment courtes. Dans la recherche des solutions pour faire face aux violences dans les stades, les arbitres ont aussi une part de responsabilité. Est-ce que la solution ne serait pas aussi le recyclage, car très souvent, leurs décisions sont souvent contestées par les joueurs et les supporters?
Oui, bien sûr, hein, mais je crois que pour les cas d'espèce, l'arbitre n'avait rien à voir, il avait bien sifflé la partie. C'est vrai que les arbitres, ils sont pour beaucoup dans la perversion, la pratique du football, enfin de sport chez nous, donc ça tient aussi à ça. Alors, mais ça tient aussi au niveau général de l'organisation du sport, qui est encore au niveau amateur dans notre pays depuis des longues années. Il est grand temps que cela puisse se professionnaliser professionnalisés dans la manière de gérer les clubs, dans la manière de gérer les fédérations sportives et dans la manière d'encadrer les supporters et dans la manière aussi de mettre à disposition les forces de l'ordre pour pouvoir prévenir les débordements. Je voudrais aussi terminer mon propos, je crois que c'est ma conclusion, par une pensée pieuse pour Emenea Kester, l'un des rares musiciens que j'ai connu personnellement, dont le corps arrive à Kinshasa ce samedi. Je voudrais vraiment avoir une pensée pieuse pour la mémoire de ces musiciens illustres.
Dona Moussema, nous terminons cette émission avec vous. Quelle solution vous pouvez proposer pour faire face aux violences dans les stades congolais? En un mot.
Merci, c'était un plaisir ma participation à cette émission. Je pense qu'il faut travailler sur une bonne politique du gouvernement. Il y a des amis qui ont parlé de l'anticipation, je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a un travail de sensibilisation à travers les médias qu'il faut faire, le recyclage, travailler sur les arbitres, éducation civique, voilà. Ce qui va nous permettre de sortir du bourbier.
Merci beaucoup et c'est avec vous que nous terminons cette émission. Héritier Sidiakal était à la technique, Dimat était à la réalisation, Samuel Kalchak vous l'a présenté sous la supervision de Julien Nyamouni. La rediffusion de cette émission c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.